Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Bienvenue dans ce studio. Avec vous, nous traversons toujours une période artistique, nous redécouvrons nos édifices, puisque vous êtes historien et vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées, mais vous vous intéressez à l'art tel qu'il s'applique, alors pour ce qui concerne notre chronique, hein, dans nos lieux de culte, et tel qu'il se met en œuvre pour servir la foi dans tous ces lieux de notre région. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un retable. Qu'est-ce qu'un retable? Comment on façonne un retable? En fabrique-t-on encore? Ce sera une des questions. C'est quoi, au fond, un retable?
Alors, c'est un élément de décor assez emblématique dans les églises, hein, qui frappe souvent par ses dimensions. L'étymologie, c'est rétro-tabulae, donc c'est ce qui est derrière la table de l'autel. Donc, c'est souvent un grand panneau vertical qui va être décoré de sculptures, de peintures, et qui domine l'autel, le maître-autel en général de l'église.
Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a donné l'idée, ou comment on met en œuvre cette idée de faire un retable, au fond ? Pas une évidence.
Voilà, c'est en fait une succession de décisions, d'épisodes. Alors, on en fait probablement dès l'époque romane des retables, et c'est intéressant de décortiquer un peu le processus, en tout cas pour l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors d'abord, il faut un besoin, il faut que la communauté villageoise, la communauté paroissiale soit motivée et ait les moyens aussi d'investir dans cette réalisation.
Donc au fond, la communauté se dit « le cœur de mon église n'est pas à la hauteur ou n'est pas au service de la foi tel qu'on le voudrait ». Et donc c'est comme ça que naît le processus. C'est le besoin identifié, ce que vous appelez le besoin identifié.
Voilà, c'est peut-être la volonté aussi de se mettre à la mode, à la liturgie qui suit le Concile de Trente, donc à partir des années 1600. Investir peut-être parfois l'argent d'un don qui a été fait à la paroisse, concurrencer aussi peut-être le village voisin qui lui aussi a fait des travaux, donc essayer d'aller toujours plus loin dans le décor. Et de là va naître le projet de réalisation du retable.
Et l'âge d'or du retable, c'est, vous l'avez dit, 17e siècle?
Oui, 17e, 18e siècle, en gros jusqu'aux années 1750, oui.
Bon. Et une fois qu'on a pris la décision, qu'on a identifié ce besoin de rendre le cœur de l'Église à la hauteur des attentes et exprimer la foi, ouais. Que se passe-t-il à partir de là? Quel est le processus qui se met en route?
Alors c'est quelque chose de très formalisé. Alors les anciens avaient l'habitude de faire appel à l'écrit et notamment au notaire. Donc cet acte, ce projet, il va être couché sur le papier par un homme de loi, par un notaire en général, qui va réaliser une convention ou un préfet. Donc c'est un acte officiel qui va marquer la décision.
Ah, donc on procède à cette démarche-là. Pour un retable.
Voilà, ce n'est pas un simple devis comme on peut le concevoir de nos jours, mais c'est vraiment un acte officiel qui est passé.
Donc là, ce sont les hommes de loi qui entrent en lice, d'abord. Et voilà. Puis les artistes arrivent à quel moment? Parce qu'ils vont être essentiels quand même dans la réalisation.
Alors c'est vrai qu'ils sont déjà présents à ce niveau-là puisqu'ils ont été contactés par le commanditaire, la communauté villageoise. Et ils sont présents au moment du passage de cet acte, de cette convention, parce que tout va être étudié. On va choisir les dimensions de la boiserie, les sujets représentés, mais aussi combien de temps va durer le chantier. Quelles sont les conditions de travail pour le sculpteur, hein, où est-ce qu'il va être logé, comment il va être nourri. Donc tout ça est passé au peigne fin et on va aussi beaucoup s'appuyer aux paiements. Les paiements qui souvent représentent des sommes importantes vont être étalés dans le temps.
Parce qu'il y a vraiment un accord à trouver entre ce qu'on appellerait les commanditaires et puis les artistes, hein, qui ont besoin de vivre. Et là aussi, ça fait l'objet de négociations. Les commanditaires, c'est qui d'abord? Habituellement le prêtre, la communauté, on l'a dit?
Voilà, ça peut être le prêtre, la fabrique aussi, hein, qui est le groupe de personnes qui gère l'église. Ça peut être aussi les consuls, donc les élus qui représentent la communauté villageoise.
Et donc les artistes et les commanditaires se mettent d'accord pour les histoires aussi de paiement, hein, on l'aura compris.
Voilà, un paiement qui peut être en partie en argent, en partie aussi en grains, en denrées alimentaires. Ça peut être aussi le logement qui est fourni. Souvent d'ailleurs, on s'attache au confort du lit, hein, de l'artiste. Il demande d'avoir une bonne couverture, un bon édredon pour pouvoir se reposer de son travail.
Alors ce qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, c'est que la réalisation d'un retable, d'un projet conséquent, peut parfois prendre des dizaines d'années.
Oui, parce que parfois le projet est ambitieux, les revenus sont fluctuants, donc il faut parfois avoir pratiquement une ou deux générations pour arriver au final.
Ah oui, d'accord. Donc on arrête, on reprend, et puis ça, le projet se passe de génération en génération. On a un exemple comme ça de projet transgénérationnel, si je puis me permettre.
Oui, dans les Hautes-Pyrénées, nous avons l'exemple de l'église de Mont dans la vallée du Gouron, où en fait il y a une succession d'étapes comme ça. Le premier décor est en fait un retable, mais qui est peint en trompe-l'œil sur le mur du chevet de l'église, à l'intérieur, derrière l'autel. Quelques années plus tard, on réalise en trois dimensions le retable peint, hein, vraiment un retable en bois qui est la copie conforme de la peinture, mais il est livré brut de sculpture, simplement recouvert de chaux. Et après, voilà, quelques années suivantes encore, on va d'abord le peindre, lui appliquer des feuilles d'argent, et puis quand on a vraiment les moyens, la communauté va le faire dorer à la feuille d'or.
Là, depuis le début de cet entretien avec vous, de cette chronique, Thibaud de Rouvray, on voit bien que c'est des chantiers conséquents, qu'il y a beaucoup d'investissements au plan humain, au plan artistique. Ça doit coûter très cher, tout ça.
Oui, alors c'est vrai que parfois, il va coûter aussi cher de faire réaliser un retable que de faire construire une partie, voire la totalité d'une église ou d'une chapelle. On a quelques exemples. À Côte-d'Oussan, près de Lourdes, le retable doit coûter 1000 livres. Donc on est à l'époque de Louis XIV. Et pour un ordre d'idée, à cette époque-là, un bon ouvrier va gagner à peu près 200 livres par an. Donc c'est déjà 5 ans d'un salaire annuel d'ouvrier qualifié pour arriver à payer rien que la boiserie.
Et puis de nombreux corps de métier sont mobilisés pour la réalisation d'un retable, parce que on se dit bon, mais il y a celui qui l'a pensé, dessiné, et après, une fois que cela est pensé, la mise en œuvre, c'est maçon, verrier, forgeron, que sais-je. Tout ce monde-là se met à la manœuvre.
Et oui, c'est un projet total, parce que le retable, il doit être installé dans une église qui est en bon état, donc il faut réparer la toiture, il faut arranger les fenêtres. Parfois, on agrandit les fenêtres aussi, parce qu'on pense à faire rentrer la lumière pour décorer, pour éclairer, mettre en valeur ce retable. Les forgerons, ils vont fournir tous les éléments métalliques pour sceller la boiserie au mur. Et puis, ensuite, on va avoir des peintres d'horreur, parce que le sculpteur, en général, réalise le décor, mais n'applique pas les couleurs et les feuilles d'or et d'argent.
Oui. Donc on a ces peintres d'horreur, bien sûr également des menuisiers, des charpentiers. Tout ce monde-là doit, de façon coordonnée, travailler pour la réalisation de ce qui sera au service de la foi, donc ce retable. Est-ce qu'on a un exemple de chantier qui pourrait nous permettre un peu de mieux comprendre comment tout cela se succède ou s'organise ?
Oui, exemple d'une grande et belle église qui se trouve près de Bagnères-de-Bigorre, donc celle du village de Beaudéan, qui est bien documentée puisqu'on a gardé les comptes de la fabrique et de la paroisse pour le XVIIe et XVIIIe siècle. Donc avec voilà, toute une succession de travaux qui vont entourer la mise en place du retable. Il faut réparer d'abord la toiture de l'église, élargir les ouvertures pour faire entrer la lumière, démonter un retable précédent qui est un peu passé de mode, mais dont on va quand même garder les éléments qu'on va répartir sur les murs de l'église pour un complément de décor, ensuite gratter le sol, les murs, refaire des enduits. Ensuite, le sculpteur va réaliser le retable en pièces détachées dans son atelier. Il faut que ce soit donc ses garçons d'atelier et lui-même qui l'apportent et qui le remontent, qui le mettent en place dans l'église. Il faut monter des échafaudages, ce qu'on appelle des ponts. Et puis il y a tout le côté de finition, la peinture, la dorure, toutes les retouches. Et avec aussi parfois un élément qui nous paraît surprenant, mais c'est que on trouve dans les documents que souvent ces retables disposent de rideaux qui les encadrent. Alors, sûrement pour les protéger, mais aussi pour les laisser voir de façon partielle et vraiment les laisser voir en entier qu'à l'occasion de certaines fêtes importantes.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent, là, qui ont dans leur village une église avec un beau retable, bah, vous voyez combien tout cela a mobilisé toute une communauté humaine, hein, et bien sûr une communauté de travail et d'artisans et d'artistes. Sur la matière employée, on pense spontanément que c'est du bois, hein, qui est utilisé. C'est toujours du bois.
Oui, c'est du bois. Alors, des fois, il peut y avoir des éléments en pierre ou en marbre, mais en général, le matériau principal, c'est le bois. Alors, pour la structure, alors c'est vrai qu'un retable, quand on peut passer derrière, c'est quelque chose de très frustre. Donc, c'est des assemblages de planches, des troncs d'arbres à peine équarris. On va prendre du chêne ou du châtaignier pour la structure. Hein. Le chêne est solide, le châtaignier résiste bien à l'humidité. Et pour la sculpture, on va employer des bois comme le noyer, surtout le tilleul, qui a l'avantage de se sculpter très facilement, de pouvoir donner beaucoup de détails.
Oui, même si les insectes xylophages l'adore, le tilleul.
Et hein. Oui, c'est un peu le problème, voilà. Oui. C'est qu'ils ont facilement envie de le grignoter.
Bon, puis il y a une grande étape quand même qui est essentielle pour faire que le retable sera lui-même. C'est l'étape de la dorure, de la mise en couleur.
voilà, qui est souvent réalisé par un autre artiste que le sculpteur lui-même. Donc beaucoup d'étapes sur le bois en fait sculpté qui est à nu, on va appliquer toute une succession, parfois jusqu'à une quinzaine de couches d'un enduit qui est fait avec une sorte de plâtre, hein, de blanc d'Espagne, qu'on va amalgamer avec de la peau faite à base de parchemin ou de peau de lapin. Et ensuite, on peut graver dans cet enduit. À chaque étape, on va le sécher, on va le lisser, le durcir. On peut graver pour donner des effets supplémentaires de feuillage, de brocart sur les étoffes des vêtements des personnages, par exemple. Et ça, voilà, ça prend un temps énorme. Et ensuite, on va aussi durcir avec des fers. Et on va sculpter tout un tas de détails. Et on va ensuite placer ce qu'on appelle l'assiette, donc qui est une sorte d'enduit qui a un côté ocre rouge, et sur cette assiette on peut appliquer les feuilles d'or qui vont adhérer et qu'on va ensuite traiter soit en des côtés mat ou des côtés brillants, donc pour mettre toute une couleur et des reflets. On a l'impression d'une énorme pièce d'orfèvrerie, finalement une sorte de palais de Jérusalem céleste. Et toutes ces étapes prennent beaucoup de temps et elles sont encore utilisées par les restaurateurs de nos jours, hein, ce qui explique parfois la durée et le coût des chantiers de restauration.
Oui, là, vous nous donnez à comprendre justement pourquoi ça prend tant de temps, hein, de restaurer. Parce qu'il faut respecter ce travail-là initial qui est remarquable, qui est phénoménal. Bon, j'espère que vous ne regarderez plus jamais le retable de l'église, de votre village, de votre ville, de votre quartier, s'il y en a un comme avant. En tout cas, ce travail a vraiment mobilisé beaucoup d'énergie et de talent. Il y a quand même une dernière chose importante. C'est, alors certains l'appelleraient l'inauguration, ce n'est pas le bon mot, mais la mise en service, parce qu'on est dans une église.
Et oui, et le retable, les statues, le tabernacle, comme tous les objets du culte, pour pouvoir être affectés, destinés au culte, il faut qu'il y ait une bénédiction par le clergé. Et c'est ce qu'on retrouve dans les anciens rituels, hein. On va procéder à la bénédiction du tabernacle et des images. Alors les images sont les statues, les tableaux qui représentent les saints, les scènes de la vie du Christ ou de la Vierge et qui ornent les retables.
Merci Thibaud de Rouvray. On vous dit à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
Merci Mathias Terrier, au revoir.